France Inter.
Écrivain et ancien grand reporter au Nouvel Observateur Jean-Paul Dubois, dont une petite partie de l'œuvre prolifique a été adaptée au cinéma et à la télévision, vient de publier le roman à la noirceur drôlatique « L'origine des larmes » aux éditions de l'Olivier. Dedans, un homme, appelons-le Paul comme le fait régulièrement Jean-Paul Dubois avec des personnages de ses romans, tire sur son père alors que celui-ci est déjà mort. Ce parricide post-mortem l'astreint à un an de soins, c'est-à-dire de séances avec un psychiatre farfelu, le docteur Guzman, qui interrompt régulièrement les entretiens pour se mettre dans les yeux des larmes artificielles. Paul va lui confier le mépris qu'il éprouvait pour son père et peut-être expliquer son geste. L'entente sera cordiale et ponctuée d'anecdotes concernant la solitude, le manque d'amour, la cruauté, la famille choisie et les chiens, soit les ingrédients essentiels de l'existence. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Jean-Paul Dubois.
Bonsoir.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui ?
Je me suis fait le pari d'essayer de ne pas pleurer devant vous. Pour une raison simple, c'est que dans la présentation, vous êtes peut-être un peu avancé, parce que je souffre d'un trouble. Je suis capable de pleurer pour trois fois rien. C'est comme ça. Donc je me suis dit, ça m'arrive souvent. Mais au début, j'avais, comme tout être masculin, j'avais honte et j'étais complètement ridicule. Et puis maintenant, je m'y suis habitué. C'est un truc. Je pense que c'est génétique parce que mon père avait à peu près le même problème.
C'est de là que vient l'origine des larmes.
Non, l'origine des larmes, ça vient de quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Non, on va en parler pendant une heure, mais je voudrais revenir sur ça, parce que Jean-Paul Dubois, vous dites votre introduction, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit dans l'introduction qui aurait pu faire naître ces larmes ?
Non. Mais j'ai pensé à quelque chose qui pourrait les faire naître et qui viendra peut-être en votre émission.
Vous ne voulez pas dire ce que c'est ?
J'ai pensé à vous adresser un texte enregistré au Canada par Michel Lalonde.
Mais on va le passer, ce texte ?
Eh bien, je ne suis pas certain de pouvoir l'écouter jusqu'au bout, parce que c'est un truc qui me plie en deux de chaque fois que je l'écoute. Il y a quelques trucs comme ça, quand je les écoute, je ne peux pas aller jusqu'au bout.
Est-ce que vous voulez qu'on en parle sans le passer ou
est-ce... Ah non, au contraire, passez-le, c'est d'une beauté absolue, c'est un truc...
Jean-Paul Dubois, vous faites partie des écrivains ayant un rituel d'écriture. Le vôtre a lieu au mois de mars. Vous vous donnez 31 jours pour écrire votre livre avec un objectif de 8 pages par jour et l'interdiction d'aller vous coucher avant de les avoir écrites. Avant, c'était tous les ans. Maintenant, c'est tous les 3 ou 4 ans. Que se passe-t-il le reste de l'année ?
Le reste de l'année ? Il se passe tout ce dont vous avez parlé au début. La vie, les chiens, essayer d'être heureux, avoir des activités physiques utiles, me sentir vivant, sans tête, c'est-à-dire utiliser mon corps, utiliser... Et quand j'arrive à faire un truc pénible à mon âge, je commence à dire à mon âge, ce qui est déjà à la fin, je suis super heureux, j'ai un bonheur. Le bonheur que peuvent éprouver les sportifs quand vous arrivez à réaliser un temps ou un effort ou sauter une hauteur qui va au-delà de vos habitudes et de vos moyens. C'est-à-dire quand j'ai de l'habitude, j'ai toujours dans la tête que l'homme est plus petit que lui-même. Et là, dans ces moments-là, entre ces livres-là, j'ai l'impression, quand je réussis mes trucs, d'aller au bout d'un exercice physique qui me libère des petits problèmes de tête. C'est pas brillant,
hein ? Si, justement. Ça l'est littéralement. Je sais que parler de vos livres vous met mal à l'aise, Jean-Paul Dubois. Vous pensez qu'on va quand même pouvoir en parler ce soir ?
Bien sûr, oui. Ça me met mal à l'aise, mais comme je suis mal à l'aise quand je me regarde dans une glace ou que j'entends ma voix dans un enregistrement.
Alors, vous avez l'air de ne pas vous aimer, c'est quelque
chose... Non, du tout. Je suis embarrassé. Attendez, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais quand j'étais môme, j'étais bègue. J'avais les oreilles décollées, le nez, je voyais que mon nez, et j'étais persuadé que jamais, même un chien ne lèverait les yeux sur moi, quoi. C'était... J'ai l'horreur physique que moi-même. Après, je me suis habitué et puis ça va, quoi, c'est la vie, c'est normal. Mais Et même ce que je dis parfois m'embarrasse, ce que j'écris m'embarrasse. C'est une difficulté à être en harmonie, entre l'idéal de ce que vous avez dans une tête et le peu que vous pouvez produire. Voilà. J'ai une tête qui est trop ambitieuse pour ce que je peux donner souvent. Et les livres que je fais, au moment où je les fais, je pense être Michel-Ange, au bout de 20 jours, je commence à avoir de gros doutes. À la fin, je trouve que je pleure à chaque fois parce que je suis heureux d'avoir fini. J'ai toujours peur de mourir avant de finir un livre. Ça, c'est depuis le début.
Mais vous avez l'air obsédé par la mort. Vous avez l'air de vraiment ne pas vous aimer.
Ben, ne pas m'aimer, c'est des caricatures.
Puisque je sais que vous détestez aussi votre prénom et vous ne relisez jamais vos livres puisque vous dites que vous en avez honte.
Non, je les relis après, jamais. Non, c'est pas vrai. Il y a des livres. J'ai commencé relativement jeune et je finis relativement vieux. Entre-temps, j'ai fort heureusement un petit peu appris. C'est-à-dire que ce que je faisais au début, j'aurais honte de le faire aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas des bouquins qui sont sympathiques. Je me souviens que d'une phrase de tous mes livres qui va résumer tout ce qu'on peut dire.
Un début de roman.
La dernière phrase du premier roman qui est « Je ne vaux pas grand-chose, je ne crois en rien et pourtant tous les matins je me lève ». Voilà. Ça... C'est exactement tout ce que je pense dans la vie. Le fait de se lever, c'est un acte de bravoure chaque fois. Mais vous savez que vous n'êtes que ça, quoi. Et c'est pas grave. Il y a un tel décalage entre l'image de ce qu'on donne de gens qui produisent un bien artistique, on va dire, et la réalité de ce qu'on a à l'intérieur. Moi, j'ai jamais pu faire coïncider les deux, quoi. Je reste le type qui chaque fois est terrorisé en se disant qu'il n'aura pas le temps de finir le livre, que il va pas y arriver parce que ça sera pas bon, qu'il va être médiocre et qui finit par s'en convaincre tout au long d'une vie. Mais c'est aussi un moteur. C'est-à-dire que chaque fois, j'espère que le dernier sera moins pâteau que le précédent.
Vous est-il déjà arrivé même quelques secondes de trouver grâce à vos yeux ?
Oui. Bah oui.
Quand ?
Oui.
En faisant un gâteau ?
Non.
Les chiens vous regardent avec tendresse. Vous voyez que vos prophéties ne sont pas toutes vraies.
Si on commence à parler des chiens, on ne va pas en sortir.
Vous avez un chien ?
Bah oui.
Comment s'appelle-t-il ?
Watson.
C'est merveilleux. C'est un bon enquêteur ?
Je ne vais pas vous répondre. Pour vous dire, il y a un rapport irraisonné avec la vie et avec les choses. Ce chien a une histoire qui vient après d'autres chiens avec lesquels il a vécu et avec lesquels j'ai vécu. Et un jour, je me suis mis dans la tête de parler. Je me dis, ce chien doit comprendre 200-300 mots que je lui dis. Moi, ça fait 14 ans qu'il vit avec moi, j'ai jamais compris ce qu'il voulait dire. Alors, je suis obligé d'interpréter son visage, son regard, ses yeux. Et chaque chien a une manière de s'adresser à vous. Et un jour, je me suis mis dans la tête de parler à mon chien, sachant qu'il ne me répondrait jamais, sauf qu'un jour, il m'a répondu. C'était dans un rêve qui est reporté dans ce livre, à l'identique, et il m'a parlé. Et il m'a fallu 15 jours après pour sortir de ce rêve et convenir que Watson ne me parlerait pas. Mais il me regarde. C'est-à-dire qu'il fait des fixettes. Tous les soirs, il se met au même endroit, à la même heure. Il me fixe dans les yeux pendant 10 minutes. Et qu'est-ce qui se passe là ? Ma chienne précédente me parlait. C'est-à-dire qu'elle se mettait, vous allez me prendre pour un doudingue, mais elle s'asseyait devant moi et elle faisait un bruit de gorge à 21h précises, tous les soirs, en me regardant. Un bruit de gorge qui était, on aurait dit, c'était pas un aboiement évidemment,
Un râle ?
Non, c'est un bruit de... Je vais pas le faire. Je le fais très bien, mais pas... Non.
Pourquoi ?
Non. Ça, vous ne me ferez pas faire le bruit de ma chienne qui me parle au micro de France Inter, jamais. Je suis descendu, mais pas... J'ai une piètre opinion de moi-même parfois, mais pas... Je ne ferai pas ça. Non, mais... Donc, la réalité d'une vie, ça, c'est hors des livres, et pourtant, c'est ce qui va faire un livre. C'est ce qui va faire qu'à un moment, vous allez avoir une interpénétration, parce que c'est trivial tout ça. Mais quand vous le mettez sur un beau présentoir, essayez de faire un joli présentoir et mettre ça dessus. Pareil pour les humains, pareil pour... C'est ça en fait le boulot d'un livre, c'est d'arriver à sortir de la médiocrité de la vie qu'on vit tous les jours. C'est... Voilà.
Je te suis dans l'aube, chante aux autres ombres, tu n'y vois que du feu, je m'approche pourtant si près de toi à te toucher du doigt, mais la foule de te suivre, tu me remarqueras, j'émergerai des eaux profondes et tu viendras te blottir dans mes bras et j'entendrai enfin le doux son de ta voix quand la foule
Bastien Lallemand, l'anonymat.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Jean-Paul Dubois, avant d'évoquer votre roman L'origine des larmes qui est paru aux éditions de l'Olivier, parlons un peu de vous et de votre rapport au temps qui est assez singulier. Il serait régi par le fait qu'à 8 ans, on vous a annoncé la mort prochaine de votre père d'une maladie cardiaque. Votre père qui est finalement mort 20 ans plus tard. Et à partir de ce moment-là, il paraît que vous vous êtes rendu compte de toutes les heures qui nous étaient volées et vous avez décidé d'économiser le temps.
C'est parfaitement résumé, c'est exactement ça. À 8 ans, on m'annonce que l'imminence peut arriver d'un moment à l'autre, selon même sa définition. Et très vite, j'ai senti, l'imminence, ça s'appelait la mort. Donc j'ai compris ce qu'était la mort, c'était de plus avoir de père, d'un instant à l'autre. Et je me suis dit, j'ai mesuré à ce moment-là le temps de vie. J'ai une espérance de vie, bon, c'est venu plus tard le calcul arithmétique, mais une espérance de vie, c'est tant d'années. Sur une journée, il y a 8 heures de travail. Il y a 2 à 3 heures de déplacement pour s'y rendre. Et il y a, on va dire, 8 heures de sommeil, 7 heures de sommeil qui ne servent à rien, qui sont du temps perdu, dont on ne profite pas, dont on... On est quasiment inconscient, c'est une anesthésie, quoi, qui est indispensable. Mais si vous additionnez 8 et 8, 16, plus 2, 18, 19, vous arrivez à 5 heures de vie par jour, sur 24. Vous reportez ça sur une vie, une espérance de vie, et vous apercevez que vous avez, dans le meilleur des cas, un tout petit quart d'existence réelle qui vous appartienne. Parce que le travail... C'est très joli de dire que le travail, c'est bien le travail quand vous faites un travail comme le mien. C'est-à-dire que je me mets devant un bureau quand j'ai envie de m'y mettre, je raconte l'histoire qui me passe par la tête, et le reste du temps, j'essaie d'être heureux avec les gens que j'aime. Mais le travail, c'est pas ça. Le travail, c'est de la contrainte. C'est des obligations, c'est de la violence, c'est des rapports mesquins. Chaque fois que j'ai travaillé, j'ai éprouvé ce genre de choses. C'est tout à fait... Et c'est la vie normale. C'est pas ma vie. Ma vie est une vie miraculeuse, chanceuse et hors du monde. Mais la vie normale, c'est chronophage. Et ça, ça vole tout, quoi. Donc, il faut essayer... Enfin, moi, je me suis mis dans la tête de trouver tout au long de ma vie les travaux, les emplois, qui seraient les moins chronophages et qui me permettraient d'aller jouer, par exemple, quand j'étais jeune, de la musique avec mes potes. Voilà. Je faisais ça du matin au soir, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Il n'y avait qu'un truc qui m'intéressait, c'était de chanter des trucs de Lou Reed ou d'écouter de la musique noire américaine, des trucs comme ça. Et je vivais là-dedans. Et je me suis dit, c'est tellement plus agréable, ça. Parce que quand j'ai bossé, pour la première fois, ça a été dans un emploi qui s'appelait la caisse et congé payé du bâtiment. Caisse et congé payé du bâtiment, mon boulot, c'était de compter les horaires pendant lesquels les maçons étaient à l'indisponibilité, parce qu'il avait gelé, parce qu'il avait plu. Vous imaginez une vie comme ça? Et j'ai vu le monsieur qui était à côté de moi, qui a appris que sa fille venait d'avoir un malaise au collège, et il s'est levé, il est allé voir. On travaillait dans un burlingue, qui était, c'était Brésil. Il y avait 30 ou 40 bureaux et 40 mecs devant les bureaux. Il est allé demander la permission à la tête de con qui faisait office de chef, l'autorisation de rentrer chez lui pour retrouver, prendre des nouvelles de sa fille. Et le type lui a répondu, vous êtes toujours pareil, choisir les moindres prétextes pour vous absenter du bureau. Et là, je me suis dit, putain, c'est la vie, ça c'est la vraie vie. Moi, je sortais de l'université, je me suis dit, c'est ça la vraie vie, c'est ça le travail, quoi.
Vous avez été grand reporter, Jean-Paul Dubois, pour Le Nouvel Obs. C'est quand Claude Perdriel a voulu vous engager, vous lui avez dit « Non, je préfère être moins payé, aller vivre à Toulouse et avoir plus
Bien
de
sûr,
temps pour
ouais.
moi ». Et vous lui avez dit « Je réclame le droit à la paresse, au bonheur et à la dépression ». Ça prend aussi du temps, la dépression?
Ben la dépression, c'est une composante de la vie. C'est que tout le monde est, par moment, moi, ça me tombe dessus. Et puis, je n'ai rien à foutre de travailler à ce moment-là. J'ai pas...
Est-ce que vous êtes aussi insomniaque?
J'aime pas dormir.
J'ai lu que vous dormiez 4-5 heures par nuit.
Non, parce que je dis plus ça, parce que maintenant, Attal, j'ai appris, faisait la même chose. Donc je veux bien... Je dors, je repousse l'endormissement jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire 3-4 heures du matin tous les jours. Mais, comme j'ai une autre théorie qui est fait que l'homme est fait pour se réveiller quand il n'a plus sommeil, qu'il ne peut pas marcher avec le boulot. Donc, quand vous êtes dans ma configuration, mais voyez-le comme une horloge, il faut voir une horloge 24 heures. C'est-à-dire, vous profitez de la vie à fond. Moi, à 3 heures matin, il m'arrive de faire de la mécanique à la maison. J'emmerde personne, je fais mon truc, je suis bien. Je suis fatigué, je vais me coucher. Puis là, je me dis pas, ah, demain, il faut que je me lève à...
Mais le temps perdu, c'est très subjectif, puisque faire de la mécanique, par exemple, ça consiste en quoi? Ça pourrait être du temps perdu pour d'autres. Comment est-ce qu'on décide ce qui est du temps utile ou perdu?
Ça, c'est l'axe même de la réflexion, c'est que le temps perdu, c'est moi qui le décrète.
Oui.
C'est-à-dire, je suis mon employeur, l'ouvrier, le syndicaliste, le chieur, le révolutionnaire qui défile, qui s'engueule avec le patron, qui va demander des comptes à l'LVMH. C'est moi tout ça, je suis
ah,
tout ça.
Ah, c'est vous qui allez demander des comptes.
Voilà. Mais c'est moi qui décide de ma souffrance, de mon bonheur, de mon temps. C'est, dès l'instant où je suis propriétaire de mon temps, ne se pose plus la question de savoir si un type me dit demain à 8 heures on commence au chantier, j'ai dit oui, ok. Voilà.
J'ai lu que depuis longtemps vous aviez des problèmes cardiaques, je crois. Et donc vous faites énormément de sport pour le cœur tous les jours. Alors là, vous pourriez vous dire, Jean-Paul Dubois, que vous êtes votre propre patron, mais c'est tout de même votre corps là qui est votre patron et qui vous force à faire des choses qui vous ennuient. Puisque dans une interview, vous disiez que c'était ennuyeux de faire une heure de vélo ou de la natation.
Ce qui est ennuyeux, c'est de faire du sport quand on est vieux, quand son corps n'est plus le même. Moi, j'ai passé ma jeunesse à courir. Mon bonheur, c'est de courir pour courir, sans rien, sans but. Courir pour courir. Et vous voyez le chien de Royal Canin?
Bien sûr, ben au voilà. ralenti.
Voilà, mais moi je le faisais en accéléré.
Avec la musique?
Non, sans la musique. Mais c'était courir, voilà, pour aller au bout, pour cramer ce que... Mais je l'ai encore aujourd'hui, ça, pour cramer la vie qui bouillonne, quoi. Donc, quand vous faites ça sur un... On vous dit de... Le vélo, par exemple, faire du vélo. Il n'y a rien de plus chiant que de faire du vélo. C'est un truc... Et puis moi, je vais toujours au même endroit. Je fais tout, comme je suis évidemment obsessionnel, je prends toujours le même circuit. Je peux le faire les yeux fermés autour du lac. Je sais que je croise tel ou tel mec qui a un vélo électrique, qui va me doubler et m'humilier. Enfin, il y a tout. Donc le sport, c'est formidable quand vous jouez avec. D'un point de vue thérapeutique, c'est pas extrêmement formidable, mais c'est bien. Ça va. Ça vous donne aussi. Ça maintient.
Jean-Paul Dubois, on pourrait parler des heures de cela, et je vais profiter du fait qu'on se concentre autant sur le corps pour parler de la physiologie et donc des larmes, et donc de l'origine des larmes. Votre roman qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Dans « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » qui a reçu le prix Goncourt, il était question de paternité, et les origines paternelles étaient situées au Danemark. Le héros s'appelait Paul Hansen. Et dans « L'origine des larmes », le héros c'est Paul Sorensen, c'est aussi un nom à consonance nordique, et en exergue on peut lire « Til min farfar » à mon grand-père en suédois, c'est ça? Alors, vous habitez à Toulouse, vous êtes né chez les Latins et vous êtes fasciné par la Norvège, la Suède, l'Islande, le nord du Canada. D'où vous vient ce goût des pays
francs? Je sais pas. J'ai du mal souvent avec le sud. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de douceur dans les pays nordiques. Vous allez au Canada. Je sais pas si c'est la théorie des climats, sans doute. Je vais sortir des choses un peu triviales, mais il y a quelque chose de plus respectueux. Voilà. Il y a quelque chose de plus respectueux. J'aime bien ces climats. Il y a quelque chose. C'est à cause de d'Aga Marshall, qui était suédois et dont le narrateur croit être le petit-fils. Donc c'est pour ça que j'ai blagué dans la couverture en disant mon grand-père en suédois. Mais bon, c'est... Oui, je suis plus à l'aise dans ce monde-là.
Alors justement, l'héritage, c'est quelque chose qui revient souvent chez vous, Jean-Paul Dubois, dans la succession par le biais d'une maison, mais aussi d'une fatalité génétique poussant au suicide. Et dans l'origine des larmes, le narrateur Paul est son géniteur, Thomas Lansky. Je vous cite, un être désaxé, dangereux, pervers, irrigué en permanence d'un flux malveillant. Le narrateur a perdu son frère jumeau et sa mère biologique, Martha, à sa naissance à Montréal en 1980. Il faut dire qu'on est en 2031 dans le livre, c'est ça?
Oui.
Et il a une mère d'adoption, la deuxième compagne de son père, qui est Rebecca, dont le père lui dit régulièrement qu'elle n'est pas sa mère. Alors, j'ai deux questions. Pensez-vous qu'on puisse s'affranchir du déterminisme de son arbre généalogique? Et est-ce que la vraie famille, c'est uniquement la famille choisie, adoptée? Puisqu'en fait, ceux qu'il aime le plus, ce sont ceux qui ne partagent pas le même sang.
Moi, la famille généalogique, je m'en fous.
On n'est pas condamné?
L'origine, bah non, enfin ça dépend. Ça dépend si le racisme entre en jeu ou pas. Mais si...
Pourquoi?
Parce que si vous êtes... noir adopté par des blancs, vous serez toujours regardé comme un noir. Donc là, le déterminisme, l'origine familiale va jouer, le racisme va jouer. Ce dont on ne s'affranchit jamais, c'est l'éducation, c'est les images de la jeunesse, de la naissance, les images, savoir si votre père embrasse votre mère en rentrant ou si s'assied en lisant le journal. Ça reste une vie entière, ça va être déterminant. C'est pour ces raisons-là que plus tard, vous ferez la vaisselle. Pendant que votre femme lit le journal, par exemple.
Vous faites la vaisselle?
Ouais, tous les jours. Je m'engueule avec ma femme pour la faire, parce qu'elle ne supporte pas que je fasse la vaisselle tout le temps. Et je dis, c'est mon boulot, j'adore ça. Mais en plus, j'adore faire la vaisselle. Mais j'adore le ménage, hein. C'est un truc. Mais ça fait partie des loisirs de mec oisif.
Mais vous êtes très singulier, Jean-Paul Dubois.
Non, mais c'est sérieux. Nettoyer un truc, c'est un bonheur. Je ne supporte pas les tâches. Une tache, un vêtement me rend malade. Sur un vêtement, ça me rend malade immédiatement. Mais nettoyer une pièce de fond en comble... Vous savez, quand j'étais jeune, je faisais des chantiers. J'ai fait ma maison. Et le bonheur, c'était le soir, quand je nettoyais le chantier, qu'il y avait cette putain d'odeur de ciment, de plâtre infect, mais que j'arrivais à nettoyer et que je voyais apparaître l'ébauche du travail fini. Ça vient de là. C'est un truc extraordinaire. Vous faites un truc, vous le voyez venir, et quand c'est fini, vernir un parquet. Je posais un parquet. Mais je vous assure, c'est vrai. J'adore poser des parquets. Des parquets de 20 à peu près.
Enfin, vous êtes libre là pour des travaux?
Mais j'ai fait plein de travaux.
Non, arrête l'émission, on va refaire un parquet.
Mais je vous montrerai comment on fait les parquets.
D'accord.
Bouveté. Donc je faisais mon truc, et mon bonheur, quand tout était fini, c'était de le vernir. Et à 4h du matin, ou 5h du matin, quand c'était fini, j'allumais la lumière, et j'allais voir le parquet, comme des mecs vont voir Venise. Quoi. C'est un truc, c'était exceptionnel. Donc le goût du minage vient de là, le goût du fini, ça va aller mieux, je suis sûr.
Je vais vous forcer à parler de votre livre juste après ce morceau.
Thank you. shortest ever, and the rest like holiday. The laugh on where she sang, dancing in a polka dot top. And when you say you want it all, and know you want it all, baby, take it all from me. And when you drag me on the floor, the blue Tejano's on, you keep your eyes on me. So get in the waves, swim in your leather.
Sex, Tejano Blue.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Jean-Paul Dubois, vous venez de publier le roman L'origine des larmes aux éditions de l'Olivier. Dedans, il y a des réflexions sur la famille qu'on choisit, il y a des réflexions sur les chiens, mais on a déjà parlé des chiens en début d'émission. Et il y a la mort qui est partout dans le livre. Le narrateur a perdu toute sa famille. Il y a même une dame qui meurt dans l'avion dans lequel il rapatrie le cadavre de son père pendant son trajet de Montréal à Paris. Lui fréquente les morts puisqu'il travaille dans une entreprise de housses pour cadavres, Stramentum, dont vous donnez la signification. Vous pouvez la donner ici ou...
C'est du latin qui veut dire fourreau.
Fourreau. Et puis, il y a plein d'idées assez amusantes au sujet de la mort. Je pense à celui... Déjà, son père veut exploiter la mort. Et puis, je pense à ce personnage qui a l'idée de happy dying, de faire des fausses cérémonies de funérailles qui font apprécier la vie après. Est-ce que vous, si vous, on faisait semblant de vous enterrer, vous pensez que ça aurait une quelconque influence sur votre façon de voir la vie ?
Sur moi ? Non.
Vous le dites tous les jours, en fait, que vous allez mourir depuis.
Exactement. Donc c'est pas non, mais tout ça est vrai. Hein. C'est pas des vues de l'esprit, c'est pas des personnages. Tout ce qui concerne la mort, le commerce de la mort, le trafic de la mort, les housses mortuaires, tout est documenté à fond. Et ce sont des vrais. La Corée est grande spécialiste de ça parce que c'est un pays où il y a beaucoup de suicides. Mais ce qui est le plus étonnant en Corée, c'est qu'on les entreprises ici font du paintball pour solidariser les employés et leur donner l'impression qu'ils ont un sens à leur vie. Et là-bas, c'est surtout les rassembler par paquet de 120 ou 130 dans un cimetière avec 120, 130 cercueils allongés. Tout le monde, chacun monte dans son cercueil, ferme. Il y a les rituels de la mort, et pendant 20 minutes, vous êtes mort. Ensuite, on ouvre tout ça, et tout le monde rentre à la maison, convaincu d'avoir réglé le problème en partie de la mort et évité le suicide.
Jean-Paul Dubois, on apprend aussi, alors si tout est vrai, je vous pose la question,
que je vous assure,
toute atteinte à l'intégrité d'un cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, c'est vrai ?
Ouais, c'est vrai, c'est rien du tout. Le plus étonnant, c'est que la cour, je crois que c'est la cour de Versailles, qui est aussi, c'est aussi documenté dans le livre, a condamné un type parce que il a tué une deuxième fois un cadavre, et il a été condamné parce que on a puni l'intentionnalité, à savoir le fait qu'il ne savait pas que son adversaire était déjà mort, tué par son voisin la nuit précédente.
Vous avez changé les noms parce que j'ai essayé de retrouver
non.
Cette affaire.
Ah ben, vous allez sur n'importe quel serveur et vous faites l'affaire Père d'Euro. P-E-R-D-E-R-E-A-U.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Jean-Paul Dubois, je vois que vous êtes ému par cet extrait. Qu'est-ce qu'on entend?
Le monologue des larmes,
oui.
de Blade Runner, le premier.
Oui, en 82, dans le film de Ridley Scott.
Ce que j'ai lu aussi, qui est assez extraordinaire, c'est qu'au départ, on donne à Roger Hauer à lire un texte qui est une merde absolue.
Non, c'est l'acteur qui incarne Roy Batty.
Voilà, et qui dit ce monologue à la fin. Et Roger Hauer a dit non, moi je peux pas dire ça. Et c'est lui qui a improvisé, entre guillemets, ce texte avec l'épaule d'Orion, avec les portes de Tannhauser, qui est un truc qui en soi ne veut pas dire grand-chose, sinon la fin. Moi j'ai vu des choses que vous ne verrez jamais, il est temps de mourir, et il meurt comme ça. Alors c'est tout ce que vous voulez, c'est une époque, c'est grandiloquent, mais c'est, ah, qu'est-ce que c'est bien, ça fout des frissons, ça. Le son, la voix, cette musique avec des basses profondes, c'est un truc.
Vous l'avez mis en exergue de votre roman L'origine des larmes, et en fait, est-ce qu'on pourrait dire que les larmes sont intérieures et extérieures, puisque j'ai l'impression qu'elles sont partout disséminées dans le roman, c'est-à-dire qu'on est en 2031, il pleut sans discontinuer, tout est mouillé en permanence. Le narrateur Paul a donc perdu sa mère et son frère jumeau à sa naissance. Il pense que l'origine des larmes est au fond du ventre de sa mère. Et puis il y a aussi ce psychiatre qu'il voit, le psychiatre Guzman, qui souffre d'une pathologie qui le force à se mettre des gouttes artificielles dans les yeux. Vous avez fait une variation autour des larmes?
Oui, je l'ai fait, mais je l'ai vraiment pas fait exprès. C'est là où c'est bien, quand vous arrivez à sortir des choses intimes que vous avez en vous grâce à un livre et être surpris. Ça, c'est une agréable surprise, c'est la cohérence. Parce qu'au départ, je pars du principe qu'on est 80% d'eau, que les larmes, c'est un truc magique, mais on ne sait pas d'où ça vient, l'origine. Quelle est l'origine? Alors l'origine, on va la situer au point de rupture de la vie et de la mort pour le narrateur. Et je vous dis un truc qui vous convaincra encore plus que j'ai un problème, c'est que toutes les morts et toutes les naissances des narrateurs sont le jour de mon anniversaire, le 20 février. Tout le temps, là c'est le cas. Je pense à ça parce qu'ils naissent et ils meurent les 20 février. L'un meurt le 20, l'autre naît le 20.
Vous vous en étiez rendu compte?
Ah mais je le fais exprès, ça.
Oui.
C'est comme Paul.
Rassurez-moi.
Ah ben oui, je vous rassure. Ah ben oui, non. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que l'origine de ces larmes, c'est une éploration. C'est-à-dire il y a le ciel... Il y a l'eau du ciel qui elle nettoie, qui est pure. Il y a le dacryocère, enfin je dis pas la marque, mais les larmes artificielles du psy. Il y a toute cette triste, il y a une formidable tristesse.
Et vous nous faites découvrir, Jean-Paul Dubois, en parlant de larmes, un peintre coréen.
La première année où je me suis installé à Paris, j'étais très dépressif. Un jour que je m'étais levé en pleine nuit, très angoissé, j'ai mis un de mes tableaux à l'envers. J'ai jeté de l'eau dessus. L'innombrable goutte d'eau se formait. Tout cela brillait et formait un tableau. C'était un phénomène très étonnant. Alors je me suis dit, voilà, c'est ce que je dois faire.
Extrait du film L'homme qui peint des gouttes d'eau sur le peintre coréen Kim Chang-yeol par son fils Oh-han Kim, que vous remerciez au début du livre, Jean-Paul Dubois et Brigitte Bouillot. Le narrateur se rend sur une île sur les traces de ce peintre. Encore des larmes sous une autre forme.
C'est très troublant, cette histoire de peintre qui arrive par hasard dans le livre. C'est extrêmement troublant. Et son fils raconte ça très bien dans le film. C'est magnifique, c'est qu'il se pose la question de savoir à quel point faut-il se mépriser ou avoir une haute idée de soi-même pour passer une vie entière à peindre des gouttes d'eau. Et il dit cette phrase, et c'est... Là, je lui rends, moi, j'en ai parlé encore hier soir, je lui ai demandé la permission il y a 2 mois ou 3. À un moment, il dit, si au moins il avait peint des larmes, mais là, on connaîtrait l'origine des larmes. Et quand j'ai entendu ça, parce que j'ai vu, il m'avait envoyé son film, ça m'a foutu des frissons. Le mot « origine des larmes », ça a évoqué un truc quasiment charnel, quoi. Il y avait à la fois le liquide, le frisson, l'émotion, les larmes, enfin. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que je peux prendre ces mots. Il savait même pas, pour lui, ces mots venaient dans le cursus de la phrase et n'étaient pas du tout. C'est pour ça que je le remercie, c'est pour ça que je l'ai appelé hier soir, que je lui ai demandé. Enfin, c'est une fabrication, ce livre, de tout un tas de choses comme ça qui s'imbriquent merveilleusement. C'est un livre qui est embarrassant. Mais
pourquoi embarrassant? Pour qui?
Pour moi, parce que c'est un livre qui est pas. C'est pas un livre. Les autres, ça va, ça allait bien. Ils se sont fait facilement dans la tête tous les jours. Celui-là, c'était un livre embarrassant parce qu'il traite de sujets difficiles, sombres, où il y a tout. Il y a les parents, il y a la mort, il y a la souffrance, il y a la solitude, il y a la perte de la sexualité, il y a la seule humanité est un peu la psychiatrie et la conversation avec une intelligence artificielle et un chien. C'est quand même l'itinéraire d'une vie qui se rétrécit de plus en plus. C'est un entonnoir. Au début, on rentre dans un entonnoir où il y a quelqu'un qui meurt à côté de soi dans un avion, ce qui est... Voilà, c'est moi quand ça m'est arrivé, ça, j'ai pensé aux parents. Je me suis dit, putain, c'est une dame. Et je me suis dit, à ce moment-là, ils dorment. C'était la nuit. L'avion venait de Montréal. Il a été dérouté à Shannon. Et au moment où on a débarqué, les gens sont restés dans l'avion. Le débarquement a eu lieu par la porte arrière. Et il y avait des ambulances et tout. Et là, je me suis dit, sa famille dort à l'heure qu'il est. Ces gens sont encore heureux. Ils sont dans l'ignorance, donc dans l'innocence. Mais ça ne va pas durer. Donc, c'est des moments comme ça. Mais ça vous reste toute une vie, des choses comme ça. Donc, au début, c'est normal que ça, qu'on arrive, on rentre là-dedans, mais on rentre par la mort quand même. Quoi.
Jean-Paul Dubois, je suis bien embarrassée là pour parler de votre choix musical. Parce que, et vous savez très bien pourquoi, parce qu'il est de Tupac Shakur, c'est du rap, ouais. C'est un tube, c'est très agréable à écouter, c'est All Eyes on Me. Et j'essayais, je me disais, est-ce que je vais tenter de faire une transition en parlant des larmes et des yeux dans le titre, mais je trouvais ça vraiment ridicule. Donc je ne le fais pas. Vous voyez, prétérition, je ne le fais pas, mais je le fais quand même. Pourquoi avoir choisi ce morceau?
Parce que j'adore le rap.
C'est vrai?
Ah oui, oui, et puis la mort de ce type et tout, c'est vieux, c'est très vieux.
Qui s'est fait tirer dessus.
Ah, j'adore le rap. Enfin, le rap, j'ai du mal avec le rap français. Et encore, il y a des trucs très beaux.
Qu'est-ce que vous écoutez comme rap?
De tout. Alors là, je n'ai aucune mémoire de... C'est un genre musical qui, pour moi, n'est pas personnifié. Je n'arrive pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à...
Sauf Tupac. Tupac est bien...
Ouais, mais Tupac, c'est parce que j'étais gamin. Enfin, j'étais gamin, non, j'étais pas gamin, j'étais jeune. Et c'est... C'est tellement... Ah, il a fait des chansons sur sa mère aussi, qui sont... Un mec qui était un brigand, qui est mort, enfin, des histoires de gang à la con, et qui est... si ça vous embarrasse, on ne le passe pas. Moi,
Ah non, alors ça ne m'embarrasse pas du tout, ça me fait très plaisir.
Ah bon?
Ce qui était embarrassant, c'est la nullité de ma transition, c'est ça qui était embarrassant.
Ah non, non, mais elle est parfaite, votre transition, moi, elle me va très bien.
Big sight, new, hey, oh God, big sight. Yeah. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me, Buffalo G. Roll up in the club, yeah, right. And shit. All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the funk, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you steal, damn nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500, Benz wanting flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope fiend. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punks won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Little life of a thug nigga until the day I die. Little life of a boss player. Cause even getting high. Hey, to my nigga Pac.
Chacour, All Eyes on Me, dans Grand Canal sur France Inter. Jean-Paul Dubois, dans une interview, vous dites « Je sais que je suis médiocre en musique, mais le bonheur chasse la clairvoyance et c'est un des rares moments où je suis pleinement heureux. » Je sais que vous avez eu un groupe pendant longtemps et qu'un jour, c'est vous qui le racontez. Vous étiez tellement mauvais avec vos camarades que le type qui avait le lieu où vous avez joué a débranché l'électricité, il l'a coupé.
C'était un, comment on appelle ça, un club où on ne diffusait que de la musique noire. Tous les, mes copains avec qui je jouais n'aimaient que la musique blanche, et moi je n'aimais que le R&B. Donc j'ai réussi à les convaincre à aller jouer là-dedans, les types ont eu la gentillesse de nous accueillir, et au bout d'un morceau, ils ont coupé l'électricité, ils ont mis la musique du club, et le mec est venu nous voir et dit « Sincèrement, c'est gentil, mais vous êtes tellement mauvais, c'est plus possible. » Et on avait, moi j'ai, c'est le plus grand affront que j'ai eu, j'avais 22-23 ans, ça a été une horreur pour moi, une humiliation. Mais on était mauvais, mais la musique a un tel pouvoir de niveler, de faire oublier la médiocrité. Moi, je joue tous les soirs, depuis que je suis né, tous les soirs, je joue la nuit, une heure, trois quarts d'heure.
Du clavier ?
Je suis mauvais, mais je m'en fous.
Qu'est-ce que vous jouez ?
Ah, je ne sais, je connais pas la musique, mais je me mets, alors c'est très curieux, je me mets au piano, je plaque deux accords, un accord, deux accords, et je laisse la main droite faire en changeant les accords parce que j'ai une mémoire visuelle des notes. C'est comme les tablatures. Je joue avec des tablatures devant les yeux, comme, enfin, imaginaire. Et je joue pendant une heure.
Des morceaux qui existent ou qui
ah non,
de
non,
votre composition?
Ah non, il n'y a jamais un morceau. Je n'ai jamais été capable de copier un morceau. Sauf quand je jouais avec mes potes et qu'il lui fallait répéter des conneries à longueur de journée. Non, c'est du plaisir de jouer. Et j'enregistre parfois parce que j'ai une sorte de sampleur à côté, j'enregistre mon truc. Et des fois, je me dis, putain, que c'est bon, c'est génial. Et puis des fois, j'ai honte. Mais c'est des petits bonheurs. Mais la musique, ça vous c'est une douche, quoi. Voilà, c'est une douche quand vous avez transpiré.
Speak White. Il est si beau de vous entendre parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Nous sommes un peuple inculte et bègue, mais ne sommes pas sourds au génie d'une langue. Parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats. Speak White. Et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse que les chants rauques de nos ancêtres et le chagrin de Nelly Gant. Speak White. Parlez de choses et d'autres. Parlez-nous de la Grande Charte ou du monument à Lincoln, du charme gris de la Tamise, de l'eau rose de la Potomac. Parlez-nous de vos traditions. Nous sommes un peuple peu brillant, mais fort capable d'apprécier toute l'importance des crumpets ou du Boston Tea Party. Mais quand vous really speak white, quand vous get down to brass tacks pour parler du gracious living et parler du standard de vie et de la grande société, un peu plus fort alors, speak white. Haussez vos voix de contremaître. Nous sommes un peu durs d'oreilles. Nous vivons trop près des machines et n'entendons que notre souffle au-dessus des outils. Speak white and loud, qu'on vous entende, de Saint-Henri à Saint-Domingue. Oui, quelle admirable langue pour embaucher, donner des ordres, fixer l'heure de la mort à l'ouvrage et de la pause qui rafraîchit et ravigote le dollar. Speak white, tell us that God is a great big shot and that we're paid to trust him. Speak white, parlez-nous production, profits et pourcentages. Speak white, c'est une langue riche pour acheter.
Jean-Paul Dubois, vous êtes très ému.
C'est tellement fort ce truc.
Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs ce dont il s'agit? Ça date de 68.
Speak white, c'est... Le Québec a été dominé et est toujours encore dominé financièrement par les anglo-saxons. Et au tout début, le mépris des anglo-saxons était tel pour les francophones qu'ils s'adressaient à eux en leur disant « speak white », c'est-à-dire « parlez blanc », c'est-à-dire ce qu'ils disaient aux autochtones, « parlez blanc ». Voilà. Et le fait de s'adresser comme ça, c'était à la fois culturel, c'était économique, c'était racial, c'est tout. Et je trouve que dans ce texte, cette dame dit ce texte avec... Vous savez, c'est le patron qui dit « speak white », et le mec met un genou en terre, il s'exécute, et il baisse pas les yeux, et il lui dit tout ce qu'il a à lui dire, l'histoire du pays et tout ça. Et je trouve cette révolte qui est...
when you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.
At the end, never walk alone. L'hymne de l'équipe de football de Liverpool par Jerry and the Pacemaker. C'est un hymne cité dans votre roman L'origine des larmes, Jean-Paul Dubois, par le héros qui vit dans une solitude certaine, mais qui parfois, et cela frôle le fantastique, aperçoit son frère jumeau, mort à sa naissance, je le rappelle. Une solitude résolue par une conversation quotidienne d'une ou deux heures avec une intelligence artificielle, U.No, donc j'imagine You Know. Est-ce que vous avez, vu que vous êtes quand même journaliste aussi, Jean-Paul Dubois, est-ce que vous avez essayé de discuter avec une intelligence artificielle ?
J'ai fait plus que ça. Il y a 4-5 ans, mon petit-fils m'a appelé un soir en me disant « Est-ce que tu connais ?» Je crois que c'était Draw It, mais je ne suis pas sûr, parce que je peux confondre avec ce que j'ai mis dans le livre, qui est une sorte d'intelligence artificielle primaire, c'est pas très brillant, qui demande, à laquelle vous demandiez un dessin. Vous lui disiez, mettons, fais-moi un Picasso façon Bastiat.
Oui, vous le parodiez dans le livre.
Voilà, un truc, et selon votre demande, sa finesse et tout, la machine moulinait et vous receviez sur votre écran 4-5 propositions de tableaux qui vous appartiennent, puisque c'est vous qui les avez commandés. Deux sont médiocres, un est moyen, et les deux autres, vous n'en revenez pas. Tellement c'est beau, je ne sais pas si c'est le mot, mais je m'en fous de savoir qui l'a fait. Parce que là, on entre dans un monde où il faut être modeste. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle, elle fait en 5 minutes ce que nous, on a la difficulté à intégrer durant le cours de toute une vie. Alors, le problème est de savoir ce qu'on va en faire après. Nous, on comprend pas le monde dans lequel on vit. Elle le dessine, elle le fabrique en quelques secondes parce qu'elle a tout emmagasiné. Alors le problème est de savoir si après on lui demande de faire le monde, ce qui n'est pas possible, mais on peut lui demander, par exemple, de donner une solution à un problème hors affect. Et hors des affects, on a une donnée brute. Est-ce qu'on est assez, nous, intelligents lorsqu'elle a fait tout le travail d'apprentissage qu'on a mis une vie à faire? Elle le fait en 5 minutes et elle nous dit maintenant c'est à vous de vous démerder, faites le boulot. Ça, c'est bien.
Merci, Jean-Paul Dubois.
Merci à vous. C'était rude.
Non.
C'était drôle et rude. Ah si, si, le Speak White, c'est trop. Je peux pas.
C'est vous qui l'avez choisi pour
je
les
sais,
auditeurs.
Mais à chaque fois, c'est pareil. Ça me plie en deux.
En tout cas, je rappelle tout de même que votre dernier roman, L'origine des larmes, est paru aux éditions de L'Olivier. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Laurent Baudouin.